Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il y a une qualité qui l'emporte à mes yeux sur les autres et c'est l'enthousiasme. Cette faculté à s'enflammer comme un barbecue bien préparé et à continuer à le faire en dépit des années qui passent, des désillusions qui pleuvent en cascade et du désenchantement qui guette l'homme quand s'amorce l'automne de son existence. J'ai en face de moi Philippe Manœuvre. Comme cela m'arrive assez régulièrement depuis une quarantaine d'années, plus tassé que nos colonnes vertébrales respectives, et j'ai l'impression qu'un génie malicieux, genre Aladdin sous psychotrope, s'amuse à jouer avec lui avec les notions de temporalité et de spatialité. Certes, l'enveloppe de Philippe s'est pris une petite châtaigne, comme c'est le cas pour nous tous, même si dans celui d'un Gérard Larcher, par exemple, c'est plutôt le châtaignier en entier qu'il s'est mangé, mais pas que, je parle du jovial président du Sénat. Mais curieusement, avec Philippe, ni l'esprit et pour une fois ni la lettre n'ont été touchés, ce qui est quand même un cas d'école. Comme quoi, si je peux me permettre, le vieux mantra sexe, drogue et rock'n'roll a une vertu paradoxale. Soit ça casse, et quelques amis de notre connaissance ne sont plus là pour en parler, soit ça passe et ça donne des ébulons survitaminés comme Philippe qui continue à propager, évangéliser dirais-je même, la bonne parole de cette musique à base d'électricité et de rage, qu'elle vient de là, qu'elle vient du blues. Oui, Philippe Manœuvre est avec nous pour parler du second tome de ses mémoires après la force de l'âge. L'âge de la force, cette émission a pour titre aujourd'hui l'œuvre du man. Montez à bord, pop pop pop, c'est parti.
France Inter, pop pop pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Philippe Manœuvre.
Bonjour Antoine.
Et bienvenue dans Pop Pop Pop. Alors j'ai une première question.
Oui, on se tutoie.
Ouais, non, il faut qu'on se vouvoie, oui, je sais.
On se vouvoie, on se connaît que depuis 1981.
Hein, c'est donc, la convention. Alors disons qu'on se tutoie.
Allez,
alors si Philippe, j'ai une première question qui risque de te déstabiliser, mais je la pose quand même.
Au risque
de jeter un froid dès le début de cette émission. Alors, je sais que depuis peu, vous vivez avec...
Oui, un chat.
Voilà.
Oui.
Il s'appelle Rimbaud, votre chat. Oui. Pourquoi avoir préféré Rimbaud à Bowie, à Keith, à Mick? Bref, pourquoi la littérature a-t-elle dépassé le rock au point de s'imposer dans votre salon et jusque dans votre litière?
Ben, Rimbaud, il s'appelait comme ça quand on l'a eu. Mm-hmm. Donc, mon fils avait très bien travaillé à l'école. Et mon fils Ulysse, 9 ans, et donc il avait très bien travaillé à l'école, et la seule récompense qu'il voulait, c'était un chat. Uh-huh. Voilà, donc on a été chercher le chat à la maison des chats, et il s'appelait Rimbaud.
Ça aurait pu devenir Rimbaud.
Ah oui, alors ça, c'est la femme de ménage qui l'appelle Rimbaud, parce que... Ça, je peux vous dire, ça glisse souvent, oui.
Bon, et à défaut, d'avoir un nom en lien avec le rock, qu'est-ce que Rimbaud aime comme musique?
Mais Rimbaud, c'est le poète rock, hein, par excellence. Regardez, Patti Smith.
Oui, voilà.
Regardez, Antoine, Patti Smith qui a été acheté la vieille maisonnette où Rimbaud
parce
a passé
restait,
son enfant.
Ouais.
Parce que, oui, mais voilà, Rimbaud, c'est Bob Dylan qui l'a le premier utilisé. Mm-hmm. Les Illuminations, ça pourrait être un titre d'album rock, psychédélique. Hein, voilà, et ça,
entièrement d'accord.
Donc c'est moi, ce chat m'a beaucoup aidé à écrire mon livre. Je peux vous dire, Antoine, parce que mes enfants restent à Paris, vont à l'école à Paris, sont avec leur maman. Et moi, je vais me cacher à la campagne, dans la Picardie profonde.
Ah, la Picardie, on en reparlera tout à l'heure.
Et je suis tout seul, et je n'ai que le chat avec moi. Et chaque fois que je repense, je travaillais sur mon livre, il était là. Et je relevais les yeux, il y avait le chat qui me regardait, genre « ça va, ça avance ?» Et le dieu « ouais, ouais
!» Bon, on a tous notre petit jardin secret. Iggy Pop a son perroquet, Biggie, mais Biggie est sur Instagram. Est-ce que Rimbaud est sur Grindr?
Alors non, Rimbaud pourrait aller sur TikTok.
Qu'est-ce qu'il ferait sur TikTok?
Ouais, je pense qu'il séduirait les gens, parce que non, il est irréel, il est très drôle, c'est un chat rock.
Bon, Philippe, quand je te vois, je pense à la sympathie pour le Devil, la chanson des Stones,
la chanson mythique,
qui est celle qui te définit le mieux, à mon avis. Avant de continuer à papoter ensemble, je te propose d'écouter un large extrait du morceau.
Soul and faith. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my.
Sympathy for the Devil, cet extrait de l'album Beggar's Banquet des Stones, c'était en 68 et aujourd'hui dans Pop 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 pour Philippe Manœuvre, notre invité du jour. Philippe, vous dites avoir toujours été plus Stones que Beatles. Alors c'est une manière élégante d'afficher votre préférence, mais n'est-ce pas un peu lisse comme manière d'exprimer vos goûts? Vous savez pourquoi je dis ça?
Pour la drogue?
Non, je dis ça parce que José Garcia pense exactement la même chose que vous. Et il l'a exprimé de manière plus radicale ici, sur cette première radio de France, en disant, je le cite, hein, « Moi les Beatles, virgule, je les encule, j'ai toujours préféré les Stones. »
c'est d'une violence inouïe.
Non, mais d'ailleurs, on est d'accord que vous le dites d'une manière plus soft. Et plus...
Ouais, mais en ce moment, je réécoute beaucoup les Beatles, notamment parce que mon fils Ulysse, 9 ans, l'autre jour...
Encore lui.
Rentre dans mon bureau et me dit « Papa, faut que je te parle, c'est très grave. »
J'ai marché sur un mot.
Non, mais il dit « En fait... » J'ai bien écouté, je crois que je préfère les Beatles aux Stones. Mais ça a été très loin. Bon, en même temps...
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Je lui ai demandé ses chansons préférées, j'essaie de comprendre. Et effectivement, il adore « I want to hold your hand » parce que pour lui, à 9 ans, c'est un but de tenir la main de sa copine Maria en allant à l'école. Et son autre chanson préférée, mais qui laisse tout le monde, c'est Obladi Oblada. Il a été jusqu'à faire un exposé à sa classe. Bon, il est revenu un peu triste. Il m'a dit, tu sais, j'aurais parlé des Beatles, mais il préfère Weshden. Bon, là, j'ai senti une émotion non feinte, tu vois.
Heureusement qu'il n'avait pas choisi Helter Skelter, pour s'inquiéter. Alors, je dis, mais en réalité, c'est à vous, Philippe, qu'on doit la phrase « Ça sent trop le savon et pas assez la foufoune ». C'est une phrase entendue dans l'émission La Nouvelle Star, prononcée par André Manoukian.
Il avait repris mes écrits. Moi, j'avais écrit ça.
Vous reconnaissez la paternité de la phrase, donc.
Oui, je l'avais écrite dans Rock et Folk. J'avais une rubrique qui s'appelait « Simplet, cinglé », où je parlais des singles. Donc, je me permettais un peu des... c'était un peu l'éditorial de Rock et Folk à l'époque. Je me permettais des choses terribles qui ont beaucoup inspiré les gens. Alors, je me souviens d'une chronique que j'avais faite, c'était pour Francis Lalanne. Il avait fait un 45 tours qui s'appelait « Les mains des chômeurs ». Et ma chronique, c'était « À l'approche de Francis Lalanne, les mains des chômeurs se balancent de haut en bas, le médius fermement levé ». Ouais. Bon, j'arrivais à faire... Et ça, j'en faisais 40 par mois, quoi. C'était un peu mon côté blagounette. Parce que le rock, c'est un humour.
Bien sûr,
entre
évidemment.
Entre nous, qui passerait peut-être plus du tout aujourd'hui, mais entre nous, les rockers, on a toujours été sans pitié, que ce soit les habits, la coupe de cheveux, ta nouvelle copine, ta mobilette, enfin, tout y passait. Était prétexte à faire du petit bois pour faire des vannes, blagues, des rigolades.
Et puis l'esprit de sérieux dans le rock, c'est fatal.
Il n'y en a pas.
C'est fatal. Bon, revenons à la musique. Vous dites donc avoir été toujours Stones. C'est un groupe que vous avez découvert à 14 ans en tombant sur cette pochette. Alors évidemment, les pochettes ne font pas de son, mais c'était la pochette du 45 tours de Let's Spend the Night Together que vous voyez dans la vitrine d'une boutique. Pour mémoire, on y voit les 5 Stones originaux, farouches, en train de se cailler sévèrement sur fond d'arbres déplumés en plein hiver londonien. Et là, vous vous dites, c'est le groupe dont je voudrais faire partie, idéalement.
Oui, parce que à côté, il y a la pochette de Sgt Pepper. Est-ce que, honnêtement, vous avez envie de vous habiller en grand mamamouchi psychédélique quand vous êtes un gamin de 14 ans, genre des Stones? Et c'est ça qui frappait les gens à l'époque. J'en ai parlé avec beaucoup de gens qui ont vu le premier concert à l'Olympia en 64. Philippe Paringot, rédacteur en chef de Rock et Folk à l'époque, me dit « C'est la première fois que les mâchoires des gens tombaient. C'est la première fois qu'on voyait un groupe qui n'avait pas de costume. Ils n'étaient pas tous avec des petites vestes dorées, rouges, bleues, comme tous les groupes. Eux, ils arrivaient en costume de ville. Ils étaient... Et cette espèce... Ça, c'est l'authenticité du bluesman. Le gars qui a sauté d'un train, évidemment qu'il n'a pas une valise avec tous ses vêtements pliés. Et ben, tel qu'il est dans la vie, tel qu'il va monter sur scène ce soir. Et donc, il a intérêt à être très, très bon. Parce qu'il n'a pas des beaux habits pour flasher les gens. C'est le gars, c'est sa vie, c'est tout. C'est le trimardeur. Les Stones, s'ils arrivaient sur scène au col roulé avec des vestes d'Odin, personne n'avait jamais vu ça.
Mais un look qui était quand même aussi assez travaillé.
Un look mods, voilà.
Pensé,
voilà, un look mods, bien sûr.
Non plus, déglingue.
Non, c'était pas les SDF. C'était vraiment, c'était une grande nouveauté, une grande modernité en plus.
Philippe Manœuvre, nous allons parler dans un instant avec Charline Roux de la sortie de la deuxième partie de vos mémoires, Flashback Acide. Mais avant ça, j'aimerais un petit flashback avec vous, mais sans acide, si vous le voulez bien. Que s'est dit ce petit garçon qui bavait devant la pochette des Stones quand il a reçu en 2008 la médaille de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, une décoration remise par Iggy Pop dans les coulisses de l'Olympia? Ça a de la gueule.
Oui, je me suis dit, tu vois, mission accomplie, parce que en fait, cette médaille de chevalier des arts et des lettres, c'est un peu pour mes parents que je l'ai fait, parce qu'ils sont toujours vivants, mmh. ils nous écoutent, ils mmh. écoutent France Inter,
et on les salue,
on les salue, voilà.
Bonjour monsieur, bonjour madame.
Bonjour papa, bonjour maman, et mon père était instituteur, et il dit la médaille des arts et des lettres, c'est la seule décoration mmh. en France qu'on vous donne pas pour un fait militaire.
Ouais, avec le mérite agricole aussi.
Bon. Antoine, bon, oui, respectez mon père à 93 ans.
Et on le salue.
Bon, voilà. Et donc, pour eux, c'était vachement important que d'avoir un fils qui, mm-hmm. dont la vie, ça a été de chroniquer des disques de rock. On pouvait pas imaginer qu'un jour, ça irait jusqu'à être reconnu mm-hmm. par un ministre de la Culture que je salue bien bas ici.
Vous l'avez fait lire à votre papa, votre livre, là?
Alors,
la Cassine.
Mon père et mm-hmm. ma mère, pour la première fois, me disent, cette fois, ça va trop loin. Mon père refuse de le terminer. Il m'a dit, je pense que tu parles trop de toi, je ne terminerai pas. Et puis alors, et ma mère, dans le fond, j'entendais ma mère, ah, il y a beaucoup trop de drogue.
Oui, donc, ouais. C'est vrai qu'il y en a un petit peu, mais en même temps, ça s'appelle flashback acide. Donc, on ne peut pas dire que le lecteur est trompé sur le contenu. Bon, Philippe, dans deux minutes, on va parler de flashback acide de plus en détail. La deuxième partie de vos mémoires, juste après Sex Machine de James Brown.
Oh oui.
1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, wait a minute. Stay on the scene like a sex machine. I got to have the feeling. Shoot your bone. Get it, girl. Right on, right on.
Antoine Decaune, Popopop
et Charline Roux. Car oui, c'est dans cette réunion d'addicts au rock plus ou moins anonyme que Charline Roux, la plus fatale des Picardes, vient de faire son entrée. Bonjour Charline, et on va le faire en cœur.
Bonjour Charline.
Bonjour messieurs.
Alors Charline, vous avez lu Flashback Acide de Philippe Manœuvre, édité chez Robert Laffont et qui arrive après Rock. Qu'en avez-vous pensé ?
Alors, je me permets déjà un petit préalable pour les esprits chagrins qui ne manqueront pas de se manifester. Le livre n'est en aucun cas prosélyte, c'est dit, passons à autre chose. Un livre dont le point de départ est une rencontre avec un fan lors d'une dédicace de votre précédent livre de mémoire, Rock. Un fan vous a dit « J'ai trouvé ça bien sage, mais je comprends, remarquez, à notre époque, on ne peut plus parler de rien. » Philippe Manœuvre, aviez-vous l'impression d'avoir été si sage que ça dans Rock? Et est-ce qu'il suffit de vous mettre au défi pour vous mettre au travail?
Ben oui, non, mais franchement, ben oui, en fait, quand j'ai écrit Rock, j'ai pensé à mes enfants et puis c'était quand même compliqué de pas mon problème principal, je voulais pas avoir l'air du mec qui bat son propre tambour. Oh, comme j'étais génial jour-là. Et quand Mick Jagger m'a demandé, je lui ai répondu, tu vois, on est vraiment on est des petites souris. On a eu une chance incroyable, Antoine et moi, on a été appelés dans le monde du rock. On en a fait partie, le rock ne nous oublie pas, c'est merveilleux, mais enfin, quand on le raconte, modestie, voilà. Et donc, ça me prenait la... Donc, j'avais un peu de mal. Déjà, j'essayais d'écrire un livre, et puis de raconter ses aventures en mode plutôt modeste. Ça m'est arrivé à moi, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et donc, je me suis dit, je vais laisser tout le chapitre drogue en dehors de ça, parce que ça serait vraiment très compliqué d'arriver à jongler avec 6 balles à la fois. Voilà. Par contre, quand on m'a posé la question, je me suis dit, c'est vrai que Rock, en fait, bah, du coup, c'était un livre où on parlait très très peu de drogue. Donc, est-ce que c'était un livre rock? Est-ce que... donc, voilà, je me posais la question. Est-ce
alors, attendez, il y a eu un premier tome rock, et un deuxième tome drogue, donc le troisième, j'en déduis, sera...
Ah non.
Sexe.
Ah non.
Ah, comment
ça,
vous
non.
Dit,
ah ben,
non,
je me défie, bah si, mais
non,
évidemment.
Non, Antoine, parce que... Mais qu'est-ce qu'il y a de plus triste qu'un vieux de 70 ans qui raconte ses tac-tac quand il avait 20 ans,
s'il vous plaît.
C'est pas possible.
Et ce livre a ceci de particulier que quand on s'y plonge, c'est étrange, on vous entend. Je ne suis pas Bernadette Soubirous, mais vraiment, j'entendais votre voix, vos intonations en lisant, ce sens de la formule, du rythme, de la digression lettrée. Est-ce que c'est votre manière à vous de composer une forme de rock?
Oui, bien sûr. Je me suis toujours exprimé avec cette machine à écrire. Ça a été ma contribution au rock. J'essaye de faire un livre rock, donc il doit être excitant. Il doit être enthousiaste. Parce que Nick Kent, le grand critique anglais, quand on l'interviewe en 73 à la télévision en disant « Mais c'est quoi la critique rock ?» il dit « C'est une critique informée, mais qui doit transmettre un enthousiasme. C'est obligatoire. Sinon, mais c'est même pas la peine de venir parler d'un disque. Si toi-même, tu le trouves moyen, qu'est-ce que tu viens de nous embêter les oreilles, tu vois? Donc, il y a ce côté, voilà. Et donc, j'ai essayé de garder ça. Et puis après, ça, avec le fait que ça parle beaucoup de substances illégales, ça rend tout presque à la limite illégal. Parce qu'on parle d'un musée de la drogue en Suisse, mais quoi? Et on va parler de la convention
du... La Cannabis Cup
à Amsterdam, la convention du LSD. Bon, tout ça, ça se passe en dehors de France, évidemment.
Bien sûr.
Mais voilà, nous, on est les petits soldats français qui allons représenter le pays.
Alors, Philippe Manœuvre, dans ce livre, Flashback Acide, il est question, pour le plus grand plaisir de vos parents, donc de LSD, de champignons mexicains, de cocaïne, de speed, de Jack Daniels. Et j'ai lu une déclaration à l'AFP qui m'a fait beaucoup rire. Vous avez dit « J'ai skié sur des montagnes de cocaïne et remonté des torrents de whisky ». En fait, Flashback Acide, c'est un livre de développement personnel.
Voilà, on peut le traiter comme tel. Comment prendre toutes les drogues du monde, sauf l'héroïne, parce que moi, là-dessus, je n'ai pas mes 10 ans de toxicomanie opiacée. Et je m'en félicite, mais j'ai eu tout le reste.
Et répétons quand même la mise en garde de Charline tout à l'heure.
Ce n'est pas un livre prosélyte.
Non,
voilà. on ne fait pas la promotion de tout ça.
C'est pas
pour l'alcool.
Voilà, c'est un livre qui dit j'ai arrêté et voilà pourquoi.
Oui, parce que c'est ça aussi.
Et voilà, j'ai arrêté et j'ai arrêté il y a 20 ans.
Vous êtes un repenti,
j'ai pas rebu d'alcool depuis 20 ans. C'est très dur. Maintenant, en cette période, quand Noël approche. J'irais bien, Antoine, on va se faire un Jack, comme à la grande époque, on était là avec nos verres tintinabulants.
Moi, j'ai jamais bu, moi.
On serait fait une bouteille de Jack Daniels, et bon, on n'a pas le droit de dire ces choses-là. Moi, j'ai eu ma pénitence. C'est-à-dire, quand vous écrivez un livre comme ça, et que c'est pas un roman, vous avez affaire au service juridique de votre éditeur. Et là, vous avez des avocats qui lisent en disant, vous avez cité 14 fois le même whisky, la loi Evin peut vous tomber dessus.
Ah, donc là, on peut considérer que c'est une version expurgée.
Là, c'est la version expurgée.
Ah, ben, je veux voir l'original.
Et en exergue du livre, une citation que l'on doit non pas à un rocker, quoi qu'il soit stoner, excellent jeu de mots, Seth Rogen, un extrait de son livre Yearbook, qui raconte qu'enfant, lui avait dit qu'avec une seule prise de LSD, on risquait un flashback acide le restant de sa vie. Est-ce que c'est un avertissement que vous avez entendu vous
non,
aussi
mais c'est une fake ouais. news. C'est une fake news.
Bien sûr.
Comment, en 1967, les chercheurs américains pouvaient savoir qu'en 87, on aurait des flashbacks de LSD ouais. et qu'il fallait surtout pas, si on avait pris du LSD, qu'on se dirige vers des carrières comme pilote d'avion, parce que quand t'auras 250 personnes dans ton Boeing et que t'auras un flashback acide, tu fais quoi? Donc c'était des vraies légendes, c'était des choses qu'on a, des pures inventions, des légendes urbaines que l'establishment nous déversait dessus. Alors, une des premières interviews que j'avais faites, c'était Bette Midler, qui était une chanteuse irréelle, hilarante, qui toujours très d'ailleurs, drôle. Très drôle, et en plein milieu de l'interview, elle me dit, bah alors, ils sont où les flashbacks acides? Parce que ouais, j'attends depuis 67, on est 75, là. Qu'est-ce qui se passe?
Et dans le premier chapitre, Rocking the Soviets, vous parlez de votre obsession pour cette phrase tirée du Absolutely Sweet Mary de Dylan. But you live outside the law, you must be honest. But to live outside the law, you must be honest. Pour vivre hors la loi, il faut être honnête. Est-ce que c'est pas ça le résumé de la vie selon Philippe Manœuvre?
Un peu, en tout cas, je suis à Moscou avec Yves Bigot, les Russes viennent de découvrir le métal, on a été faire des concerts avec les Scorpions, et ça c'est bien les rock critiques, on parle d'autre chose. Et quand on parle d'autre chose, on remet le sujet éternel, Bob Dylan, notre barde. Et c'est vraiment, mais je me souviens d'avoir passé 4 heures, et j'ai revu Bigot il y a quelques jours, parce que lui aussi a sorti un très bon bouquin,
un roman
sur une fille rock, et un peu, il dit un peu les mêmes choses que moi, quoi, dans le genre. Cette explosion psychédélique des débuts, pourquoi d'un seul coup ça a basculé dans la cocaïne? C'est pas ça qu'il aurait fallu faire. Bon, bah, déjà pour la musique, parce que la cocaïne produit que des œuvres froides.
Ouais.
C'est glacial, c'est Frankie Goes to Hollywood, c'est chromé. C'est sur le moment on dit oh quel brio, puis un mois après on dit oh, c'est clinquant, on jette le truc, et c'est pareil avec l'écriture. Donc on en arrive tous un peu aux mêmes conclusions. C'est marrant parce qu'on est des vieux rockers, on est encore là et on a la chance de pouvoir tirer les conclusions. On a encore un tout petit bout de cerveau là-haut, quelques neurones qui s'agitent. On peut regarder en arrière. On a le droit là aujourd'hui de dire mais qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on nous a imposé. On a cru que pour être rock, il fallait avoir une paille dans le nez en permanence. Mais non. Mais pas du tout.
Bon, Philippe Manœuvre, on l'aura compris, aujourd'hui vous êtes plus verveine et cacolac, mais quand on a consommé tout ça, toutes ces choses dont on parlait il y a quelques instants, comment fait-on pour garder la mémoire intacte? C'est pas pour moi, c'est pour un ami.
C'est parce que moi j'ai beaucoup de chance, c'est que j'avais écrit des articles souvent à l'époque, quand je raconte Motorhead et moi, où sur 40 ans on se retrouve. Bon, bah, il y a la séquence des Enfants du Rock qui est devenue légendaire, qui est dans le film de Sabillot, que les Allemands ont repris. Il y a la première tournée, elle est racontée dans Rock et Folk en détail. Alors après, ça a été un gros boulot de retrouver tout ça, parce que...
Oui, mais c'est ça, vous aviez vos archives.
Voilà, j'avais mes archives.
Et même publiques et personnelles.
Et même à la convention du LSD, j'avais écrit 6 pages le soir dans un carnet que j'ai retrouvé. Donc, mais ça m'a pris un mois pour retrouver. Je savais que ce carnet existait quelque part. Quand j'ai retrouvé, j'étais en larmes. Mais de joie, quoi, de me dire, bon, voilà. Donc, j'ai cette chance.
C'est un livre qui est extrêmement joyeux à lire, dans lequel il n'y a pas de traces de nostalgie gluante, comme c'est souvent le cas dans les livres de souvenirs ou de mémoire. Et on découvre plein d'anecdotes. Alors, tiens, par exemple, je vous en lance une sous forme de Camoulox. Johnny Hallyday, couteau, fourchette.
Oui, alors ça, c'est un soir où on fait un bras de fer avec Johnny. Mais Johnny, le jeune Johnny, quoi, le Johnny un peu dingue, voilà, il est là avec ses copains, ça se passe à Val d'Isère, et donc on fait un bras de fer, et on arrive à un moment où on est loué, quoi, on n'arrive pas à aller plus loin, on est bloqué, et à un coup il prend le couteau, il commence à me couper le bras, donc moi je prends la cuillère à fondu, là, ces espèces de petites fourchettes très pointues, je mets des petits coups dans le bras, genre arrête, quoi, bon. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, avec une bière à la main, hein, parce que le petit déjeuner avec Johnny, c'est à la bière. Hein, Antoine, c'est ça, il a été à Nashville lui-même. Il me remonte son bras couvert de piqûres, il me dit « c'est quoi ça ?» Et moi, je lui monte mon bras couvert de striures, je lui dis « et ça ?» Et on se marre, on commande un whisky, voilà, ça c'est l'alcoolisme rock, bon, que dire.
Il dit très bien le « c'est quoi ça ?» très bien, vraiment, parfait. Flashback Acide, c'est la seconde partie des mémoires de Philippe Manœuvre qui arrive après Rock, et c'est édité chez Robert Laffont, et vous comprenez tous que c'est un livre qu'on a beaucoup beaucoup aimé. Hop, 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 hop. On va continuer à en parler dans quelques instants, mais pour l'instant, l'heure tourne, c'est le moment du pop break dans ce pop, hop, hop, c'est l'heure des pop news.
Compte à rebours enclenché. branché, alors chaque jour jusqu'à Noël, une petite sélection spéciale et on commence par la chanson, probablement la plus cheesy, mais comme il s'agit de deux artistes qu'on aime beaucoup, pourquoi se priver ? Sir Elton John et Ed Sheeran font équipe pour Merry Christmas. Les bénéfices de cette chanson iront à des associations, alors faites une bonne action et comme le clip est merveilleux, Ed Sheeran y danse habillé en Mère Noël, la vidéo est à retrouver sur le compte Twitter 3615 pop pop pop.
Préparez-vous dès ce soir à aller faire un tour.
Dans un autre monde.
Notre monde ! Celui de la Reine des Neiges, de saura-t-on pourquoi Elsa est née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Christophe, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire. Un voyage à retrouver ce soir pour la première fois à la télé à 21h05 sur M6 et le film sera suivi d'un débat. Non, je plaisante, des aventures d'Olaf.
Quelqu'un a besoin d'un bonhomme de neige ?
Un très beau livre à glisser sous le sapin. Son titre, c'est Cinemaps. C'est signé A.D. Jameson et Andrew DeGraff pour les illustrations. Des films cultes, de Shining aux Gardiens de la Galaxie, de Pulp Fiction à Jurassic Park, racontés via leurs décors et les parcours de leurs personnages. Par exemple, on peut suivre Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue du Népal au Caire, puis à Londres, ou encore suivre Marty McFly dans son retour vers le futur à travers le Hill Valley de 85 et de 81 et de 1955, pardon. Chaque illustration est accompagnée d'une analyse des topographies de chaque film. C'est très beau et Cinemaps, c'est chez Inis Éditions.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Ah oui, c'est moi.
Ben
oui, bien sûr. Merci, bravo, Charline. Philippe
prie.
Manœuvre, je sais que le Père Noël est venu s'approvisionner chez vous, car dans sa hotte, à côté de Flashback Acid, il a mis des palettes de quiz rock, un quiz mais rock, comme son nom l'indique, à retrouver chez Hugo de Singe.
Oui.
C'est ça, l'éditeur.
Alors,
c'est...
Oui, parce que c'est un gros éditeur de jeux. Mm-hmm. En fait, on était confinés dans l'Oise avec et on avait un copain qui était le chanteur des Prostitutes à l'époque, ouais, du Gibus, enfin, un très gentil rocker, et donc on est tous les soirs, on jouait à des jeux, quand même un peu, voilà, on jouait au Yam, on jouait à Monopoly, et à un moment, il dit, mais il n'y a pas un jeu rock, et on n'en a pas chez nous, puis on regarde sur Amazon, et rien, ça n'existe pas. Donc j'appelle un éditeur de jeux, mon pote Hervé Dezinge, je lui dis donc, quand la dernière fois j'étais dans ton bureau, j'ai vu le grand quiz foot de Pierre Ménès. Est-ce que tu crois pas que le moment est venu de faire le quiz rock ? Il me dit, si tu veux, accepte de Philippe Manœuvre, il suffit de m'envoyer 480 questions dans un mois et demi, et on l'imprime en Chine, et il sort pour Noël, ouais !
Et c'est le Hervé Dezinge que l'on connaît,
mais oui,
de l'Écho des Savanes.
Mais voilà, qui a été le patron de l'Écho des Savanes, d'accord, et qui est maintenant chez Hugo, qui dirige des départements... Et donc ce Hervé, bravo, merci quoi, parce qu'après, avec
Hervé,
Hugo, avec mon copain Hugo Payard, on s'est attaqué à écrire les questions. Alors,
Je voudrais savoir d'abord, est-ce que c'est le Père Noël qui vous a passé cette commande ? Parce que j'ai entendu dire qu'il était très fan de Motorhead et qu'il écouterait d'ailleurs, je ne sais pas si c'est exact, ce morceau sur son traîneau radio.
Subspeed,
oui. Et il paraît qu'avec ça, il respecte pas du tout la limitation de vitesse à 30 km/h quand il survole Paris.
Là, il y a des rennes qui vont à 30 000 km/h, là. Hein.
Bon, je le disais, c'est un quiz, mais un quiz assez éloigné des quiz façon Laurence Boccolini.
Alors, d'après le titre de cette chanson, de qui Patrick Bruel en a-t-il marre du haut carré cache ?
480 questions, 250 cartes, un livre. Comment avez-vous composé tout ça, Philippe ?
Bon, alors, on s'est dit qu'il fallait faire des catégories pour que ça soit amusant, tu vois, qu'il y a des gens qui sont plus métal que punk, ou plus classique rock. On a fait 6 catégories. Et ensuite, on avait un certain nombre de questions à mettre dans chaque catégorie. Et après, pour que les questions soient quand même pas trop difficiles, tu vois, tu dis, sur le quai de la gare de Dartford, Keith Richards rencontre Mick Jagger. Mick Jagger a 2 disques sous le bras. Alors ça, c'est légendaire chez les fans des Stones. Ouais. Est-ce que c'est un disque de Muddy Waters, un disque de Chuck Berry, ou est-ce que c'est un disque de Bo Diddley et un disque d'Elvis?
Voilà, il y a toujours une alternative.
Il y a une alternative, comme ça. Bon, après, c'est une question, ou l'un ou l'autre. Oui. Vous pouvez jouer si vous n'y connaissez absolument rien. Mais pour les fans, normalement, ils peuvent répondre avant même qu'on donne les alternatives.
D'accord, mais alors, quand on se met dans ce rôle, le maître du quiz, est-ce qu'on accepte de facto l'étiquette de... aïe, 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 vais-je oser le dire, encyclopédiste du rock ?
Oh non, pas du tout, ça a été fait pour se marrer. Moi, si vous voulez qu'on parle, si vous me parlez de Philippe Manœuvre, l'encyclopédiste, moi je vais vous lire les gages que j'ai inventés. Vous allez voir, l'encyclopédiste, ça va pas... Alors, le gage, bon, si vous ne trouvez pas... Faites-nous votre meilleur solo de air guitare. Imitez Philippe Manœuvre parlant des Stones en 1969.
Ouais, Keith, hein, je viens de voir Keith.
Voilà. Chantez-nous un petit Johnny Hallyday.
De la musique que j'aime.
Et les coups, peut-être ?
Les coups, quand ils vous arrivent. Ah oui, ah, ça fait mal.
Très bien, il a passé le gage. Trouvez... Alors, attendez. Oh, faites l'intro de Johnny B. Goode avec la bouche.
Bon. Antoine est meilleur sur les gages, j'ai l'impression.
Il est très très bon, hein. Antoine.
Mais attends, je fais des gages alors que j'ai rien perdu. Ah bah... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le monde
Antoine.
À l'envers.
Alors, non, le non. Dernier gage, oui. Je vous le dis. Bon, il y a faites-nous un petit moonwalk, mais ça,
oui,
je vous demande pas.
Oui. Non,
mais le dernier gage, c'est tel Angus Young de AC/DC, montrez-nous votre cul.
Oh non, non, les gens ne veulent pas
ça, ça, mais c'est une émission de Noël.
Faut pas me pousser non plus, hein.
Bon, donc, Beatles, Stones, punk, glam, metal, du grunge à la Britpop, classique rock. Voici donc les différentes catégories de ce quiz. Tiens, on va jouer ensemble. Je prends une carte au hasard.
Oui.
Patati, mais je dis au hasard, donc c'est vraiment au hasard. Ok. D'où les Ramones tirent-ils leur nom ?
Oh, ça c'est
des Beatles. Des Kings ou des Stones ?
Eh ben, c'est des...
Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le jeu des... avec les tic, tic, tic,
tic, tac,
non ?
Tic, tac, eh bien, des Beatles.
Avez... Ouais. Ah, et pourquoi ?
C'est pas une histoire de nom d'emprunt, c'est
voilà.
Pas ça ?
Paul McCartney, pendant les tournées Beatles, pour pas être découvert par les fans les hôtels, qui entouraient les hôtels, il descendait dans les hôtels et écrivait Paul Ramone. Mm-hmm. Et du coup, les Ramones, apprenant ça, se sont dit, on va être la famille de Paul, on va être les Ramones.
Alors que musicalement, ils étaient assez éloignés.
Ouais,
ah, tout à fait d'accord.
Ça se discute pas du tout.
À vous d'en prendre une, Charline, vas-y.
Quel chanteur a mordu une chauve-souris sur scène pendant un concert à Chicago ? Est-ce Marilyn Manson, Rob Zombie ou Ozzy Osbourne ?
Eh bien, c'est...
La réponse est...
Ozzy Osbourne ! Et ça, les auditeurs de France Inter le savent depuis 82, car c'est arrivé en 82, et je me souviens d'avoir fait une émission avec Brenda Jackson, où on a raconté cette anecdote sur les ondes, et souvent Antoine venait nous voir. Vous étiez allé chez Neil Young, Antoine,
absolument,
cet été-là, je m'en souviens très bien.
Ok, eh ben écoutez, voilà de quoi égayer la soirée, hein, soit avant d'avoir lu Flashback Acid, ou après l'avoir lu.
Ouais, il y a le quiz, il y a le petit quiz, on peut s'amuser. Voilà, désormais, s'il y a un reconfinement, je vous le dis,
le
ma
jeu,
fortune voilà. Est faite, voilà le jeu rock.
Un Noël thématique.
Idéal, le quiz rock de Philippe Manœuvre et qui est à mettre sous le sapin. Philippe, vous restez avec nous dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler de...
My father rules an entire planet.
He's losing it.
Parfois, ça me fait peur d'aimer à ce point une personne dont je sais qu'elle ne m'aime pas.
Le média, c'est moi.
De Bertrand Burgala, donc, de la série You, du film Dune de Thomas VDB et de Pop Culture, ce sera juste après Walking at a Downtown Pace. C'est un morceau signé par Kate Kurtz.
Getting either.
Walking at a Downtown Pace, c'était le groupe de rock américain Parquet Courts. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
Je m'appelle Peppa Pig, et voici mon petit frère Georges, et voici Maman Pig, et voici Papa Pig.
Alors, ce son, Philippe Manœuvre, c'est le générique de Peppa Pig, et c'est ce qui vous évoque la pop culture. Explique-moi, parce que là, j'ai besoin d'une explication.
Bah, moi, je viens de passer les 8 dernières années avec ce générique quotidiennement, mais non-stop, puisque j'ai eu... Et c'est très, très marrant, parce que la même chose se passe, quand ils arrivent à 4 ans, tu dis, bon, bah, je te mets ton Peppa Pig. Ah non ! Ah non, c'est pour les bébés ! Donc, là, ma fille, qui vient d'avoir 5 ans, qui va avoir 5 ans dans quelques semaines... Elle me dit « Ah non papa, je ne veux plus regarder Peppa, c'est fini, c'est terminé, maintenant on se dirige vers les princesses Disney, bon ok d'accord, mais c'est marrant parce que ce truc qui est fou, qui a été là tous les jours de ta vie pendant, pendant 8 ans, puisque j'ai eu deux enfants jeunes et là... Donc j'ai eu 8 ans de Peppa Pig, et là, ça s'en va. Mais ah, plus jamais de ça, c'est fini.
Le malheureux qui s'aventure dans
mais c'est assez drôle,
sur
hein,
le
Peppa
territoire
Pig,
des princesses Disney. Et toutes mes condoléances. Bon, passons de Peppa Pig à un autre monde, c'est l'heure de votre pop liste. Nous vous avons demandé, Philippe, de choisir un livre, un film, une musique, une série. Votre livre, en ce moment, Philippe, c'est « Comédienne à Rhapsody » de Thomas VDB. Charline, à une lettre près, Thomas aurait pu être du CBD, une bonne alternative pour rocker assagi.
Tout à fait. Le récit de la vie d'un rock critique nommé Thomas Vanderberg, un garçon drôle, spirituel, avec une vraie plume.
Mm-hmm. Philippe, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Alors,
si vous arrivez à lire avec vos lunettes noires.
Bien sûr. Avec autant de respect, j'imagine qu'un catholique demandant à un gars de la sécu s'il peut faire un selfie dans la grotte de Lourdes, je demandais timidement à Muriel s'il était possible qu'elle me prenne en photo à côté du pantalon. Celui-là même qui avait contenu les cuisses de Freddy, les tibias de Freddy, les bourses de Freddy Mercury. Ce fut la première et dernière fois de ma vie que je demandais à quelqu'un de me prendre en photo avec un pantalon sans porter le pantalon moi-même. Et même, je crois, l'unique photo de moi posant sciemment à côté d'un pantalon.
Extrait de Comédienne Rhapsody, le livre de Thomas VDB, absolument irrésistible. Un livre sur un rock critique validé par un rock critique.
Ah oui. Non, Thomas VDB, c'est une nouvelle voix. Sur scène, en tant que comique, je vais voir tous ces spectacles. Depuis le premier en 2006, qui tournait autour de sa rencontre avec le guitariste de Queen, Brian May, et sa déception quand Brian May avait cette poignée de main très molle, très anglaise. Et que lui, il imaginait. Enfin bon. Et puis, je suis allé voir son dernier spectacle, je trouve encore plus génial, après Bon Chien Chien, là, il y en a un nouveau, et il bouge. Là, Thomas VDB a appris à bouger. Avant, il était un peu raide, là, maintenant, il bouge, il se roule sur scène.
Ça a commencé avec Daft Punk.
Et franchement, il nous fait rire, et il a trouvé une voix qui est celle d'une nouvelle intelligence. C'est un peu le petit garçon qui dit « le roi est nu » en permanence. Et il trouve vraiment, quand son spectacle s'arrête, ça fait 1h30 qu'il est là tout seul, il n'y a pas de décor, il est sur un fond noir, et on se dit « quoi, déjà ?» Mais non, quoi. On en redemande. Donc, j'ai lu son livre Goulûment.
Prêcher des convaincus, on fait partie du
film. Ah ouais, j'ai lu son livre Goulûment. Ça raconte vraiment un gamin qui est fan de Queen, qui met Thionville comme devient le centre du monde, parce que c'est là qu'habite la responsable du fan club de Queen français. Et lui, il va monter le fan club de Korn. Et puis après, il va rentrer à Rocksound. Et puis, il va découvrir le monde merveilleux de la rock critique. Et c'est pas du tout ce qu'il attendait en vrai. Et puis surtout, il est obligé d'écouter du néo-métal. Et ça, en fait, Thomas VDB est un garçon qui a un goût exquis. Ouais, hein. Il aime Queen, il aime Weezer. Il aime des choses bien. Voilà. Et donc, il a beaucoup d'humour.
Eh bien, vive Thomas VDB. Voilà pour le livre. Votre film du moment, mon cher Philippe, c'est Dune, réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet. Toujours à voir au cinéma, n'est-ce pas, Charline ?
Oui, dans un futur lointain, le duc Leto Atreides se voit confier une périlleuse mission, la gestion de la planète Arrakis, sur laquelle on trouve une denrée des plus précieuses, l'épice. Le film s'intéresse à Paul Atreides, son fils, jeune homme brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement.
The test is simple. Remove your hand from the box and you die.
What's in the box?
Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned.
My father rules an entire planet.
He's losing it.
Dune de Denis Villeneuve, le choix de Philippe Manœuvre. Vous êtes donc plutôt Dune que Peppa Pig.
Oui, je suis plutôt Dune. Moi, Dune, ça me fascine. Je crois que c'est le grand roman de science-fiction rock, en fait. Parce que pourquoi ? Il y a des luttes de planètes, il y a les méchants, les gentils, clairement. Hein, il y a des guerriers incroyables, les sardaukars comme on n'a jamais vu. Et puis il y a l'épice. L'épice, c'est la drogue ultime qui permet de voir le futur, l'avenir.
Et on y revient.
Qui permet où Oui, mais c'est pour ça que les rockers adorent Dune, que tout le monde, dès le début, Alexandre Jodorowsky voulait réaliser Dune. Et d'ailleurs, il y a un film qui raconte comment, quand ils sont arrivés à 120 millions de francs de budget, les producteurs ont jeté l'éponge et c'est dommage. Mais Jodorowsky avait bien compris comment, à quel point Dune était rock, puisque lui, il voulait que Pink Floyd fasse la musique des voyages spatiaux, il voulait que Magma fasse la musique de la planète Harkonnen. Il avait tout, enfin, je pense qu'il avait tout débrouillé très très fort, très comme d'habitude, brillamment.
Bon, mais la version de Villeneuve est exceptionnelle.
Et la version de Villeneuve, alors on n'y croyait plus, parce qu'après David Lynch a repris le bébé, et c'était ma foi le film le plus raté de David Lynch, il en fallait un, c'est celui-là. Et puis voilà que là, eh ben Villeneuve, moi je sais pas, j'attends la suite, quoi. C'est merveilleux, il a réussi, tout le monde est là, et le Paul Atreides, on le suit, quoi.
Ils sont en train de tourner la suite, n'est-ce pas, Charline?
Oui, ça a été annoncé.
Charline,
c'est confirmé.
Timothée Chalamet.
Alors, c'est faux, parce que dans le film, j'ai plus suivi Oscar Isaac, une histoire d'âge, sans doute.
Pardon. Votre série du moment, mon cher Philippe, c'est You. Alors, You, c'est le titre de la série, c'est à voir sur Netflix. Et You, de quoi s'agit-il, Charline?
Joe, le gérant d'une librairie new-yorkaise, devient obsédé par Beck, une jeune aspirante écrivaine qui partage sa passion pour les livres. Et quand je dis obsédé, le mot est faible. Si je dois le faire en un mot, stalker.
Parfois, ça me fait peur d'aimer à ce point une personne dont je sais qu'elle ne m'aime pas.
Il faut que je sache qui tu es vraiment. Je me suis déjà trompé sur des gens dans le passé.
Est-ce que tu me suis? Je vois clair dans ton jeu.
Je ne la laisserai pas se mettre en travers de nous.
T'es devenu dingue.
Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non ?
Philippe, c'est la série préférée de Philippe en ce moment.
En ce moment,
oui. C'est une série américaine, alors curieusement tournée en français. Hein. C'est ce que j'en déduis, non ?
Non, je crois que ça a été doublé, Antoine.
Ah, ça a été doublé. Pourquoi est-ce que vous a plu à You ?
La série est amusante, parce que ça ne commence pas par la découverte du corps atrocement mutilé d'une femme. Et on y rencontre une jeune fille new-yorkaise, jeune, qui, ma foi, est assez rock'n'roll et s'envoie en l'air un peu tous les soirs avec des garçons rencontrés en boîte. Et c'est là, au bout de 4 épisodes, qu'il y en a un, malheureusement, me semble relever du serial killer. Donc, c'est un feuilleton pour les gens qui ont vu trop de feuilletons. Et c'est ça qui est marrant, c'est la troisième génération du feuilleton, quoi, en quelque sorte.
Mais ce qui est très malin, surtout, c'est d'avoir pris dans le rôle du bibliothécaire inquiétant Penn Badgley, qui était le jeune Dan Humphrey de Gossip Girl, qui avait tout, a priori, du héros plutôt sympathique.
Voilà.
De jouer le...
Non, mais c'est vraiment une série pleine de références. C'est pour les gens qui ont regardé toutes les séries, qui, d'un seul coup, arrivent sur celle-là. Et c'est une uber-série, en sens qu'elle touche toutes les cibles. Et c'est un petit plaisir, quoi. Voilà.
Charline Roux, en un mot comme en mille. Philippe, je suis très troublé, en fait, depuis le début de cette émission, parce que j'explique à nos auditeurs, vous avez un masque avec la bouche des Stones et la langue des Stones.
C'est parce que l'été dernier, j'étais le parrain de l'expo Rolling Stones à Marseille.
Le commissaire, même, t'on dit.
Le parrain de l'expo. À Marseille, on aime bien les parrains.
Oui,
donc j'étais parrain de l'expo.
Je suis dit commissaire Manœuvre, ça sonne bien aussi.
Mais comme la bouche est à proportion, en fait, c'est très, très étrange.
Et donc j'ai ce masque et les gens m'arrêtent dans la rue en me disant on peut le trouver
à l'expo. Bon, Philippe, terminons cette popliste avec le morceau que vous avez choisi, et ce morceau c'est L'homme idéal de Bertrand Burgala, avec des paroles signées, tiens, d'un certain Chalumeau.
Chalumax, le retour, mais oui.
Alors avant d'écouter ce morceau, expliquez-moi pourquoi ce choix.
Parce que Burgala, pour moi, c'est le dernier qui fait du rock comme dans les années 60-70, avec son amour de la musique, il est prêt à écouter, il a signé Chassol, il avait signé Ice Dragon, bon, et puis il y a ses albums solo qui sont assez déments, où il fait toujours appel à des nouveaux écrivains, et là c'est Chalumeau qui a amené ce texte sur l'homme idéal, et je trouve ça brillantissime. Et franchement, bah dans cette période de fête et tout, on se dit voilà, ça c'est le disque que je vais garder de cette année, mon Burgala, quoi. Celui-là, après c'est comme les livres, on les réussit pas à tous les coups. Une fois je vois Keith Richards, je lui dis mais pourquoi ce nouvel album Some Girls? Il me dit, mon pote, si je pouvais ils seraient tous comme ça, mais malheureusement des fois tu rates. Même les Stones, au bout de 40 albums, ils en ratent un, et puis des fois on sait pas pourquoi, c'est magique. Et Burgala, celui-là, il est magique.
Mais là, vous êtes très constant parce qu'il est cité dans Flashback Acid.
Ah oui, je raconte. Bah, je raconte quand on avait pris des champignons à Amsterdam avec Virginie Despentes.
C'est reparti.
Il y avait cette espèce de musique de Burgala. Ouais. Voilà, on va pas épiloguer.
Sorte de BO.
Oui, c'était un peu. Il est dans la BO du livre. Il est dans les morceaux cités.
Bon, j'étais déjà convaincu, mais vous avez réussi à me convaincre de l'écouter à nouveau. L'homme idéal, Bertrand Burgala.
Le soleil te réchauffe l'essence. Tes tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal. Mon fendu l'occiput, des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite surveiller, trouver l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherché quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi. À part toi.
L'homme idéal, Bertrand Burgala dans Pop 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 sur France Inter, et c'était le choix de Philippe Manœuvre, notre invité aujourd'hui. Merci Philippe d'être venu.
Oh merci Antoine, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci. Charline, joyeuse fête.
Joyeux Noël.
Vraiment. Vraiment, c'était une belle année malgré tout. Vivants là, à la fin. Donc,
Regardez, touchez du bois.
Alors, du singe.
Je rappelle que Flashback Acid, c'est édité chez Robert Laffont et que c'est chaudement recommandé par Pop Pop Pop, tout comme votre jeu Le Quiz Rock pour passer de bonnes soirées en famille
hivernale
et sans drogue, bien sûr. Alors, merci Charline. À demain.
Et bien, à demain.
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Théo Gomard qui était à la technique aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615. Pop Pop Pop.